Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Dans la pièce de Florian Zeller, Le mensonge, Pierre Arditi nous dit que si tout le monde se disait la vérité, il n'y aurait plus aucun couple sur Terre. Imaginez deux secondes que nous disions constamment la vérité à notre moitié sans que l'on puisse en empêcher. Tu as pris 10 kilos et ça te rend très moche. Chérie, désolé du retard, je t'ai trompé avec l'agent immobilier. Notre fils aîné n'est pas de toi. Ton ragoût est tout simplement dégueulasse. Évidemment, cette transparence absolue serait invivable. Mais alors, que doit-on révéler ou taire dans le couple? Quelles sont les vérités bonnes à dire et les mensonges bénéfiques? Comment dire la vérité sans blesser? Pourquoi la découverte d'un mensonge est-elle souvent mal vécue? Comment établir une confiance durable dans le couple sans devoir tout se dire? Comment se réconcilier après la découverte d'un mensonge? Avec nous pour évoquer ces questions essentielles, la psychologue clinicienne Lisa Letessier et la psychanalyste Fabienne Kramer, mes complices aujourd'hui, la psychanalyste Sophie Cadalen et la journaliste Marie-Laure Sunshine. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebéi.
Salut Martine. Je te dérange pas là? Parce que voilà, je dois te demander un petit service. J'ai pas de logement pour ce soir. Alors je pensais que peut-être je pourrais venir dormir ici, tu vois. Comme je sais que t'es seul, je pensais que ça vous dérangerait pas.
Bah, entre.
Ah, merci, vraiment. Merci, c'est super sympa. Martine, vraiment. Quand je pense qu'on a failli pas se retrouver. Si finalement, c'est grâce au mari de la Bordelaise. Bah, ouais. Je me la suis faite pendant 2 mois pour 400 balles par jour, et puis ce con est rentré sans prévenir. C'est pour ça que j'avais pas de logement, sinon je serais jamais revenu.
Oh mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une connerie ou quoi?
La franchise n'est pas toujours recommandée dans le couple. Thierry Lhermitte, dans Les Bronzés font du ski, l'apprend à ses dépens. Mentir ou ne pas mentir, telle est la question. Doit-on tout se dire dans le couple? Pour nous aider à y voir plus clair, Lisa Letessier, psychologue clinicienne, vous venez de publier chez Odile Jacob Le mensonge dans le couple. Fabienne Kramer, médecin de formation, psychanalyste, l'auteur au PUF de 21 clés pour l'amour slow. Alors, le Robert nous dit que le mensonge est l'assertion sciemment contraire à la vérité. Et pour vous, Lisa Letessier, quelle est votre définition du mensonge?
Le mensonge, ça va être modifier des informations émotionnelles ou factuelles ou comportementales avec une intentionnalité. Ça, c'est très important.
Alors, Proust nous disait que le mensonge est essentiel à l'humanité. Il est essentiel à la survie du couple?
Alors, essentiel à la survie du couple, c'est un peu beaucoup dire. Effectivement, on ne peut pas tout se dire dans le couple, mais on ne peut pas non plus mentir. Donc il faut trouver un juste milieu entre transparence et opacité, comment protéger son jardin secret et comment aussi conserver la confiance dans le couple.
Fabienne Kramer.
Oui, avant de se poser la question si on est obligé de mentir aux autres, je crois que la première question c'est qu'on se ment à soi-même. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà avoir accès à notre propre vérité pour pouvoir prétendre que l'on ne ment à personne. Et donc, je crois que l'histoire du mensonge, c'est quelque chose qui est inhérent à tous les couples. Il y a des grands mensonges traditionnels dans le couple, on en débattra peut-être tout à l'heure, qui sont assez classiques, mais à la question, on pourrait arrêter l'émission, c'est-à-dire on pourrait dire à la question « est-ce qu'on doit tous dire dans le couple ?», la réponse, elle est non. Non, puisque c'est pas possible de toute façon de se dire à soi-même déjà tout ce qu'on a à se dire. C'est Lacan qui disait l'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose qu'on n'a pas. Donc de toute façon.
Alors le grand psychologue américain Paul Ekman nous dit que mentir est une caractéristique centrale de l'existence. Quelqu'un qui affirmerait qu'il ne ment jamais dans son couple serait donc un fiefé menteur, Lisa Letessier.
Alors en fait, oui. Mais juste pour reprendre ce que disait Fabienne Kramer tout à l'heure, elle parlait de se mentir à soi-même. Justement, dans ma définition du mensonge dans le couple, j'exclus ça. Il y a des auteurs, effectivement, qui incluent le fait de se mentir à soi-même comme faisant partie d'un mensonge. Pour moi, ça n'en est pas un. Et d'où l'importance de l'intentionnalité. Pour moi, on ment à partir du moment où on le fait consciemment. Si effectivement on commence par se mentir à soi-même, pour moi, ça n'intervient plus dans le cadre du mensonge dans le couple.
Mais quelqu'un qui affirmerait qu'il ne ment jamais dans son couple, c'est un fiefé menteur ?
C'est un fiefé menteur. Peut-être qu'avant d'écrire ce livre, j'aurais affirmé ça moi-même. Mais en fait, effectivement, on fait tous des micro-mensonges quotidiens qu'on appelle des mensonges adaptatifs. Vous en donniez quelques exemples dans la présentation. Et donc forcément, il y a un moment ou un autre où on va mentir sans même s'en rendre compte parfois.
Alors certains affirment que le mensonge est la règle du jeu cruel et tendre du couple. Vous êtes d'accord avec ça, Fabienne Kramer ?
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est la règle cruelle. Je crois que c'est inhérent à... Vous évoquiez tout à l'heure le jardin secret. Avoir un jardin secret, c'est aussi se permettre de mentir à l'autre, de ne pas tout dire. C'est peut-être la façon de garder un espace personnel et individuel. Alors moi, j'aime bien la notion de loyauté. C'est-à-dire que je crois qu'on peut mentir dans son couple, ou en tout cas, cette définition, elle est extrêmement connectée négativement, le fait de mentir. Donc, on peut omettre la vérité dans son couple dans le but de se protéger soi-même ou aussi dans le but de garder un espace personnel et tout en restant absolument loyal. Alors, si on poussait le truc un peu plus loin, je pourrais dire il y a peut-être des gens qui sont infidèles dans le couple tout en ayant la sensation de rester loyal vis-à-vis d'un projet de couple initial qui était peut-être un projet de durée ou quelque chose comme ça.
Alors Lisa Letessier, le but de votre ouvrage, c'est de trouver un équilibre entre le trop dire et le pas assez dire.
Voilà, en fait, ce qui est important, c'est le contrat de départ du couple. C'est-à-dire que cette réponse, est-ce que c'est un mensonge, est-ce que ça n'en est pas un ? En fait, on ne peut pas y répondre de façon générale parce que c'est au cas par cas. Chaque couple a son histoire et donc chaque couple a son contrat de départ, qu'il soit implicite ou explicite. Le mensonge du couple, c'est à partir du moment où on va briser ce contrat de départ. Il ne faut pas non plus confondre, effectivement, jardin secret et mensonge. Le jardin secret, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à soi. Et où finalement l'autre n'intervient que très peu ou pas du tout. À partir du moment où cela implique l'autre, comme par exemple une infidélité, ça fait évidemment pas partie du jardin secret, c'est pas possible.
De toute façon, moi j'ai coutume de dire à mes patients qui ont une infidélité, qui me disent « je vais pas en parler, ça ne va rien changer », c'est faux. À partir du moment où ça change votre vie à vous, ça change toute la vie du couple, que ce soit dit ou que ça ne soit pas dit, c'est pas ça le sujet. Mais on vit quand même dans une époque où on est un peu dans un souci d'éternelle transparence, où on aurait tendance à dire que tout le monde doit être totalement transparent, on doit tout se dire. Moi je dis on doit tout se dire, mais encore faut-il être capable de tout entendre. Ce qui est pas... Vous dites les choses en fonction de la capacité de l'autre à entendre. C'est-à-dire que le mensonge, il se modèle aussi en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Et il y a certains mensonges qui sont... Bon, on en reparlera tout à l'heure.
Mais doit-on se prosterner devant le mythe de la sincérité absolue, Lisa Letessier ?
Non, parce que je suis complètement d'accord avec ce que disait Fabienne Kramer. Effectivement, déjà, la sincérité absolue peut être une arme si elle est mal utilisée. C'est-à-dire que on peut utiliser la vérité vraiment comme quelque chose de blessant. C'est parfois ce que font certaines personnalités perverses. Donc, ça ne doit pas être... Et quelqu'un qui a besoin d'ailleurs de transparence absolue, tout dire, tout savoir, tout entendre, on peut se questionner justement sur pourquoi, qu'est-ce qui s'y passe.
Bien sûr, c'est typiquement un travers pervers. Et ça pousse... Alors, vous devez voir ça dans vos consultations. Ça pousse les gens à devenir des sortes d'espions. C'est-à-dire qu'au nom d'une vérité dans le couple, on va se permettre d'aller fouiller dans le téléphone de quelqu'un, d'aller regarder les mails. C'est incroyable comme les gens me disent toujours par hasard, j'ai pas fait exprès, mais au bout d'un moment, je sais pas comment ils arrivent à squatter les mails et les téléphones des gens. Donc ça pousse aussi dans des comportements qui sont tout aussi répressifs que celui de mentir.
Oui, c'est vrai, moi aussi, je suis toujours. D'ailleurs, je crois que j'en parle dans mon bouquin. Je suis toujours très admirative de. J'ai regardé les mails, ah bah oui, j'ai piraté le mot de passe, c'est très facile. Et en fait, c'est d'une facilité maintenant. On peut tout espionner, mais aussi on peut mentir beaucoup plus facilement. Donc il y a un paradoxe aujourd'hui, en fait.
Le regard de Sophie Cadalen.
Oui, bah, par rapport à ce que vous disiez sur ce pistage via les mails, les SMS. Moi, ce qui me stupéfait beaucoup en consultation, c'est comme beaucoup trouvent ça normal que l'autre aille voir chez eux, effectivement, dans leur mail, dans leur téléphone, et ils disent, voilà, c'est de ma faute, j'aurais pas dû laisser traîner ce message. Ils se sentent très coupables. Et ce que je dénonce, en tout cas, ce que j'essaie d'orienter, c'est non. Déjà, il y a un abus de quelque chose, il y a une violation d'un terrain. Alors effectivement, ce qu'on a fait, c'est bien, c'est mal, ça c'est autre chose. Mais l'autre n'a pas à fouiller cet espace-là. Mais ça rentre aussi comme quelque chose, voilà, ça fait partie du contrat de certains couples. Mais l'autre a le droit à avoir accès à tout.
Mais ça traîne pas par hasard non plus. C'est-à-dire que quand on laisse traîner son téléphone alors qu'il y a quelque chose à voir dedans, c'est peut-être aussi une façon de commencer à mettre le dialogue sur place.
Au-delà de ces actes manqués dont on sait qu'ils réussissent quelque chose, effectivement peut-être d'être chopé, comme on dit. Non, j'ai entendu même parler de logiciels qui permettent effectivement d'être installés sur le téléphone et l'autre a directement le compte-rendu des conversations et des messages, mais ça ne va pas choquer la personne espionnée.
En préparant cette émission, j'ai repéré cette phrase d'Enig Mankel dans Les chaussures italiennes. Il dit « La vérité est parfois très difficile à manier, le mensonge plus simple. »
Alors ça,
Lisa Le Tessier.
Ouais, je suis pas forcément d'accord. En fait, effectivement, dire la vérité demande une grande pédagogie, une grande intelligence émotionnelle pour que justement cette vérité ne soit pas blessante. On peut pas dire la vérité n'importe comment et à n'importe qui. Par contre, à l'inverse, en fait, mentir, c'est très difficile. Et quand on regarde d'un point de vue neurologique ce qui se passe, en fait, quand on dit la vérité, le cerveau est plutôt cool. Et quand on ment, il y a beaucoup, beaucoup d'air cérébral qui s'active dans le cerveau. Planification, mémoire, inhibition de certaines zones. Et en fait, c'est très compliqué pour le cerveau de mentir. Par contre, plus on ment et plus on a une capacité à mentir, et plus il y a une sorte d'habituation qui se fait dans ce cerveau, et on ment de plus en plus facilement.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez de l'Isère. Alors, vous vivez avec votre femme depuis 31 ans, vous avez 3 enfants. Quelle est la place du mensonge et de la vérité dans votre couple qui dure?
Ça me fait rire parce que la place du mensonge, il n'y en a pas. Et en même temps, c'est un... Travail, c'est pas le mot, mais c'est un échange permanent depuis qu'on s'est rencontrés. Je veux dire, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de dire les choses, et puis accepter le fait que, on soit en partage de vie commune avec l'autre.
Et la vérité est donc centrale dans votre relation de couple?
Ah oui, complètement.
Ça fait partie du contrat de départ?
Oui, mais en même temps, justement, c'est peut-être là où il faudrait qu'on ait des heures de discussion avant sur la définition du mot contrat, puisque en fait, on s'est rencontrés et on a été amoureux, et on est toujours amoureux. C'est pour ça que, ça a fait beaucoup rire nos enfants quand après 30 ans de vie commune, on a décidé de se marier.
Mais les yeux dans les yeux, Pierre, vous ne mentez jamais à votre femme?
Mais non, justement, c'est ce que je disais à la personne que j'ai eue juste avant vous au téléphone, c'est réfléchir à la façon dont on va dire les choses. Mais il y a pas à mentir à l'autre. Je veux dire, c'est pareil, c'est des situations où je discute avec mon fils aîné qui a 31 ans et qui est jeune père maintenant. Je veux dire, c'est réfléchir aux choses qu'on fait avant. Je veux dire,
Sabine Kramer.
Ça me paraît très...
J'aime beaucoup le témoignage de Pierre. Bien sûr, on est tout de suite hyper suspicieux en se disant est-ce que lui dit qu'il ment pas, mais elle, est-ce qu'elle ment, etc. Mais sans être suspicieux, ce qui est très intéressant dans son témoignage, c'est que Pierre, vous nous dites que en fin de compte, ce qui compte, c'est de savoir dire les choses. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Lisa, en effet, c'est certes, à l'arrivée, dire la vérité, c'est toujours plus simple. Mais il y a des mensonges. Alors moi, je pense. Alors, quitte à mettre un pavé dans la mare, c'est pas très grave. Hein. Le mensonge, par exemple, qui existe le plus souvent dans le couple, c'est quand même la réalité de l'orgasme de la femme. C'est-à-dire que on s'aperçoit que nombre de femmes, et moi j'en ai en consultation, simulent depuis très longtemps l'orgasme sans jamais le dire à leur mari. Comme beaucoup d'hommes ont une masturbation sur des sites pornographiques, etc. au sein de leur couple, et n'en parlent pas non plus. Donc au niveau de la sexualité, quand on arrive vraiment, je dirais, dans l'essence sexuelle du couple, on s'aperçoit que là, d'un seul coup, la réalité n'est pas toujours exprimée ou exprimable.
Isabelle Tessier.
Oui, je voudrais aussi rebondir sur ce joli témoignage, et d'ailleurs, avant qu'il y ait le moindre malentendu, évidemment, l'honnêteté est une valeur indispensable dans le couple. Faudrait pas qu'on pense qu'on est en train de dire qu'il faut mentir. Voilà. Donc ça, c'est la construction d'un lien, c'est l'intimité, c'est extrêmement important. Mais comme on disait tout à l'heure, tout s'agit du contrat de départ. Qu'est-ce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas se dire. Et après, je pense que ce que j'appelais tout à l'heure les mensonges adaptatifs ou les micro-mensonges sont parfois en fait extrêmement inconscients. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas du tout compte. C'est juste une adaptation sociale. Donc, parfois, c'est pour ça qu'on dit non, moi je ne mens jamais. Mais en fait, quand on fait un tout petit peu attention à la façon justement dont on dit les choses,
C'est ce voilà. que dit Pierre, voilà. Sophie Cadalène.
Oui, pour revenir sur cette notion de contrat, bien sûr que tout couple a son contrat, mais un contrat qui doit évoluer. Oui, c'est peut-être ça, justement, une des clés d'une certaine longévité, sans forcément la normer, cette longévité. Mais oui, là, pour aujourd'hui, ça marche comme ça, mais demain, sans doute que ça ne marchera plus comme ça. Et ensuite, par rapport à cette histoire de mensonge, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on oublie parfois dans le couple, c'est que c'est pas un lieu où les comptes doivent être rendus. C'est pas le lieu du tout dire toujours. Il y a des choses qui ne concernent pas l'autre. Et quelquefois, on a du mal avec ça, de se dire que voilà, j'ai aussi ma petite vie, j'ai mes tourments, j'ai peut-être voilà mes actes quelquefois. Est-ce que ça a à voir avec l'autre toujours ? Et je crois que dans ce cas-là, alors on peut parler de mensonges, pas tout dire, aménager la façon de le dire, mais c'est aussi savoir se garder des problèmes, des questions, des angoisses qui ne sont que les nôtres et dont on n'a pas justement à accabler l'autre.
Pierre, dire la vérité donc, mais toujours dit d'une certaine manière, sans blesser l'autre.
Oui, je crois que c'est important, oui.
Merci pour votre témoignage, Pierre.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Doit-on tout se dire dans le couple ? C'est notre menu du jour avec la psychologue Lisa Letessier et la psychanalyste Fabienne Kramer. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Philippine Rouvière et Laura Laplot, et c'est réalisé par Stéphanie Texier. Parole, parole. Alain Delon, Alida.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais mon.
Dalida et Alain Delon interprétés Parole, parole.
C'est pareil.
Je suis aussi grosse que Stono ?
Ouais.
Grand bien vous fasse.
Non, franchement, t'es moins grosse. T'es moins grosse.
En plus, tu mens ?
Ouais, ça dépend.
Non, mais en plus, t'en profites pour mater ?
Non.
Sur France Inter.
Doit-on tout se dire dans le couple ? C'est notre menu du jour avec la psychologue Lisa Letessier et la psychanalyste Fabienne Kramer.
Mais dites-moi, c'est presque un éloge du mensonge, en tout cas le côté masculin.
Mais c'est un éloge du mensonge que fait Florian Zeller. Il préconise, d'une certaine manière, en partie, le mensonge à l'intérieur d'un couple.
Faut pas toujours dire la vérité.
Pas toujours, pas toujours. Le mensonge, parfois, peut être une preuve d'amour et en tout cas une façon d'épargner les autres.
Pierre Arditi sur France 2 en 2015. Le mensonge est parfois une preuve d'amour et une façon d'épargner les autres. Lisa Letessier, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et que vous venez de publier Le mensonge dans le couple.
Ça peut être une façon d'épargner les autres quand ce sont des mensonges adaptatifs. J'aime bien, il y a deux exemples que j'aime bien. Quand, par exemple, votre femme vient d'accoucher, qu'elle a 10 kilos de trop, vous n'allez pas lui dire, d'ailleurs j'ai accouché il y a 4 mois, donc je sais de quoi je parle.
Ça se voit pas.
Vous n'allez pas lui dire, tu as 10 kilos de trop, tu ressembles à rien. Non, on va essayer de la revaloriser, de lui dire, mais oui chérie, t'es belle, etc. Et l'autre exemple que j'aime beaucoup pour protéger, c'est quand votre meilleure amie vient d'accoucher d'un petit bébé, et que le bébé n'est pas très joli, vous n'allez pas lui dire votre bébé, ton bébé ressemble à rien, c'est pas possible. Donc tout ça, ce sont des mensonges adaptatifs qui permettent simplement de s'adapter aussi socialement et qui sont plutôt bienveillants.
Fabienne Kramer, je rappelle que vous êtes psychanalyste.
Ce qui me semble important pour faire une différence entre le bon mensonge et le mauvais mensonge, c'est le moment où intérieurement on commence à se sentir escroc dans son propre couple. C'est-à-dire que, j'en reviens à mon histoire de loyauté, il y a un moment donné où le mensonge, on sait qu'on ne devrait pas, enfin qu'il dépasse en effet le contrat du couple, mais au-delà de ça, il dépasse notre éthique personnelle, il dépasse le respect de l'autre, parce que de temps en temps, ne pas dire à l'autre la réalité de son histoire, c'est aussi la priver ou le priver de prendre des décisions. Alors je pense à l'infidélité, quand quelqu'un a une double vie de façon durable et le cache à la personne qui est à ses côtés, ben c'est peut-être une manière de l'emprisonner, cette personne-là, et de la garder pour soi, sans lui donner la possibilité de faire le choix d'une autre vie.
Deux messages sur notre page Facebook. Aline qui nous dit « Je ne pense pas qu'il faille tout se dire, chacun a besoin d'un petit jardin secret, mais le contraire de tout se dire n'est pas non plus mentir. » Et Élise nous pose une question intéressante. Les non-dits sont-ils des mensonges, Lisa Letessier ?
Alors oui, ça c'est la réponse va être très claire. Oui, ce sont des mensonges. Ce sont d'ailleurs des mensonges très importants parce que même si vous le dites pas, vous allez vous sentir extrêmement mal, culpabilisé et tout l'infraverbal va finalement ressortir dans le couple et modifier la dynamique, modifier l'ambiance du couple. Pour reprendre juste ce que disait Fabienne tout à l'heure, effectivement, mentir peut être infantilisant, c'est-à-dire on vole la réalité de l'autre, on lui vole effectivement sa capacité d'action et c'est compliqué de dire, on va parler peut-être des mensonges de protection, c'est compliqué de dire je ne te l'ai pas dit pour te protéger, mais donc tu pensais que je n'étais pas capable d'assumer cette réalité. Donc voilà, tout ça est extrêmement complexe finalement.
Sophie Cadavelle.
Oui, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que non dire c'est forcément mentir. Non, je crois que vraiment il y a des dires qui ne regardent pas l'autre. Ah. Si on prend par exemple référence à une vie d'avant, voilà, on a été follement amoureuse de quelqu'un qu'on peut croiser, dont notre actuel amoureux entend parler, est-ce que c'est vraiment la peine de lui raconter ?
Alors,
est-ce qu'on a forcément à rendre compte de cela ?
Alors, il faut faire attention, c'est toujours pareil, il faut faire attention à ce qui appartient au jardin secret et ce qui appartient à l'espace du couple. Moi, je distingue vraiment les deux. Et à partir du moment où ça appartient au jardin secret, alors évidemment, il ne faut pas tout mettre dans son jardin secret.
C'est un peu commode.
Voilà. Mais à partir du moment où ça appartient au jardin secret, pour moi, ça n'est plus un mensonge dans le couple. C'est effectivement son propre espace psychique, ses fantasmes qui n'appartiennent effectivement qu'à soi.
Alors, vous relevez plusieurs types de mensonges, Lisa Letessier, dans votre ouvrage. D'abord, le mensonge par omission. C'est peut-être la forme la plus courante dans le couple.
Oui, alors il y a plein de gens qui disent « mais non, c'est pas un mensonge ». Si le mensonge par omission est un mensonge, si je ne te l'ai pas dit, c'est que je modifie la réalité. D'ailleurs, enfin, on pense que le mensonge d'omission ne falsifie pas la réalité parce qu'on n'est pas en train de dire autre chose, mais finalement si, puisque l'autre perçoit la réalité de façon différente s'il ne sait pas.
Une variante, le mensonge par omission partielle.
Oui, ben ça c'est ce que j'appelle le détail qui tue, c'est-à-dire effectivement on va dire une partie et puis finalement on va pas dire juste la partie qui potentiellement est importante.
Il y a la simulation de l'oubli, c'est un mensonge bien commode.
Ah oui, ça c'est très commode et très courant. Ah ben non, je sais pas, j'ai oublié.
Pour les petites choses du quotidien, oui, voilà. C'est souvent sans grande importance.
Mais j'ai dû te le dire.
Il y a la falsification, ouais. Là, bon, ça peut être assez grave.
Oui, ben là c'est le mensonge comme on l'entend, c'est-à-dire effectivement je modifie carrément une information, voilà.
Et un mensonge subtil et un peu tordu, c'est le mensonge par embrouillage infraverbal. Dans les faits, je dis la vérité, mais la manière de le dire signifie l'inverse. Vous nous donnez un exemple ?
Oui, bah, l'exemple que je donne dans le bouquin, c'est effectivement « Mais oui, bien sûr, je suis allée prendre un verre avec mon collègue qui est super beau à côté de la maison, mais oui, bien sûr. » Bah oui, bah, si, en fait, il y est vraiment allé, mais c'est-à-dire la façon de le dire fait comprendre que non.
Alors, pour les besoins de votre ouvrage, vous avez lancé un questionnaire oui. sur le mensonge dans le couple. 185 personnes y ont participé. Qu'est-ce qui est considéré comme relativement peu grave par vos interlocuteurs? Et, à contrario, qu'est-ce qui est considéré comme très grave?
Alors, effectivement, il faudrait reprendre les résultats.
Ce qui est considéré comme relativement peu grave, c'est, par exemple, mentir sur les choses du quotidien,
oui, voilà.
simuler un oubli, mentir pour ne pas froisser l'autre. En revanche, ce qui est considéré comme très grave, mentir sur sa santé, mentir sur une relation suivie avec une autre personne ou mentir sur ses intentions.
Il y a garder un secret qui est considéré. Alors ça dépend d'ailleurs pour les femmes. C'est, il me semble de mémoire que c'est considéré plus moins grave que pour les hommes.
Plus globalement, Fabienne Kramer, plus un mensonge est perçu comme important dans l'échelle des valeurs, plus il entame le lien de confiance. C'est pour ça que les règles du départ, les règles du jeu du départ sont très importantes.
Alors, je ne sais pas si je suis aussi carrée sur le sujet auquel je n'ai pas réfléchi de la même façon que Lisa. Il y a des choses qui sont subtiles dans le mensonge. C'est-à-dire que le mensonge, des fois, certains vont mentir aisément par lâcheté d'abord, parce que c'est surtout une difficulté à dire. Donc il y a des choses, on parlait tout à l'heure du passé avec Sophie, vous parliez du passé. Alors à quel niveau, dans certains couples, je pense qu'il y a certains couples qui nous diraient, ah ben moi j'ai besoin de savoir quel était son passé, j'ai besoin de savoir de qui il ou elle a été amoureuse, etc. Donc ça pourrait rentrer déjà dans une sorte de mensonge, parce que en effet c'est peut-être intéressant d'avoir le déroulé de la vie sentimentale des uns et des autres, mais d'autres au contraire vont trouver que ce qui s'est passé avant ne regarde pas l'autre. Donc, il y a des échelles qui, à mon avis, sont extrêmement propres à chaque couple.
Je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. À mon sens, le passé, s'il n'intervient pas dans la dynamique du couple présent, pour moi, ça fait partie du jardin secret. C'est-à-dire, si on a envie, effectivement, d'en parler, de raconter ces histoires douloureuses, ces événements douloureux, tant mieux, ça va augmenter la complicité du couple, l'intimité, etc. Maintenant, si c'est compliqué ou que le temps n'est pas au dire de ce qui s'est passé, ça peut faire partie du jardin secret.
Pourquoi ment-on à l'autre ? Il y a quatre grands mobiles que vous relevez dans votre ouvrage, Lisa Le Tessier. Éviter quelque chose, obtenir quelque chose, protéger l'autre ou soi-même et cacher quelque chose. C'est les quatre grands mobiles ?
Oui. Après, souvent, on ment souvent pour, effectivement, pour éviter ou pour combler aussi parfois. Et c'est là où on va avoir différents niveaux de gravité. C'est-à-dire, mentir pour manipuler, ça va peut-être pas être la même chose que mentir pour protéger ou pour obtenir. Enfin voilà, mentir pour obtenir quelque chose, c'est pas pareil pour mentir pour sauver son couple. Enfin, voilà.
Il y a une autre, alors je sais pas dans quoi vous le classez, mais il y a aussi mentir pour pouvoir vivre ce qu'on a à vivre, c'est-à-dire pour être dans sa bulle d'air par rapport au couple. Je pense en particulier des gens qui trompent. Ils peuvent pas eux-mêmes, ils ont pas suffisamment digéré, je dirais, l'aventure pour pouvoir commencer à la réintroduire dans le couple, et puis ça les priverait peut-être de ce qu'ils ont à vivre. Donc je crois aussi que mentir de temps en temps, c'est une façon de se préserver soi-même. C'est presque un sentiment de survie, de se dire au moins je suis en phase avec moi-même, je réglerai mon problème de couple derrière.
Dans les raisons du mensonge, on distingue les mensonges égoïstes et les mensonges altruistes, Lisa Le Tessier.
Oui. déjà, on a vu que, en termes d'études, les femmes font beaucoup plus de mensonges altruistes que les hommes. et les hommes ont plus tendance à faire des mensonges égoïstes.
C'est quoi, expliquez-nous là.
Alors, les mensonges égoïstes, c'est en gros, je mens pour mon propre
intérêt,
voilà, et les mensonges altruistes, c'est je mens
pour protéger,
soi-disant pour protéger, pour l'intérêt total de l'autre.
Pourquoi soi-disant ?
Alors, soi-disant, alors ça n'appartient qu'à moi, mais parce que évidemment, les mensonges altruistes, c'est important, on en a parlé tout à l'heure, ça peut faire partie aussi des mensonges adaptatifs, mais je pense qu'un vrai mensonge complètement altruiste, c'est-à-dire où on n'y trouve aucun intérêt, pour moi ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en protégeant l'autre, on va aussi se protéger soi-même de la réaction de l'autre, de lui faire du mal, de ses émotions douloureuses.
Elisa, sur notre page Facebook, nous dit « Pour moi, le mensonge me permet d'avoir la paix. J'ai un mari qui râle tout le temps. Les petits mensonges me permettent d'être tranquille. »
Ah oui, bah alors ça c'est typiquement le mensonge pour protéger son quotidien. Le jour où son mari va découvrir que sa femme lui ment tout le temps, ça risque de faire effectivement briser un petit peu la confiance du couple. Mais c'est là où c'est important, c'est peut-être on en parlera après, mais de comprendre qu'est-ce qui pousse l'autre finalement à mentir tout le temps.
On verra ça tout à l'heure, juste après. Les choses vues, assurées cette semaine par Sophie Cadalène.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Sophie Cadalène, ce thème du mensonge dans le couple, c'est évidemment du pain béni pour vous, pour le psychanalyste que vous êtes.
J'adore. Parce que le couple, comme il se doit, avec des guillemets, quand on se demande ce qu'il devrait être, est tiraillé entre deux ambitions, celle de la transparence et celle du jardin secret à défendre et cultiver. On essaye parfois de les concilier. Mon chéri, comme je suis transparente, je te dis tout et je te dis même que j'ai un jardin secret, donc pour qu'il reste secret, je ne te dirai rien. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça peut donner matière à débat, ce qui satisfera une autre condition du couple, comme il se doit, la communication. Alors d'accord, misons sur la transparence. On est en couple et on se dit tout. Il est à noter en passant qu'on est en général partant pour que l'autre nous dise tout, mais déjà moins motivé pour soi-même tout raconter. Parce que ça en fait beaucoup à dire que de tout dire. S'il faut rendre compte non seulement de notre journée dans son détail, mais aussi des mille et une pensées qui nous assaillent, la soirée va être chargée. Exemple. Tiens, au fait, mon chéri, on vient de me filer un nouveau dossier à traiter. Mais je sais pas si je serai à la hauteur. Mais si, je sais qu'il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Et puis si ce n'est pas moi, c'est Jean-Jacques qui va se l'accaparer et toucher la com. Et d'ailleurs, j'ai mangé une salade avec Jean-Jacques qui lui a pris un cassoulet et qui a passé ses vacances au Maroc. Tu me feras penser à te les raconter, ces vacances. Et je me suis demandé si ce mec me plaisait, mais non. Et je me suis demandé, mais pourquoi il ne m'attirait pas? Et qu'est-ce qu'on ferait à manger ce soir? Comme j'ai mangé une salade, tu serais OK pour des pâtes? Bon. Alors d'abord, vous en conviendrez, tout dans le tout dire n'est pas passionnant, ni indispensable. Cette intention louable peut dégénérer en brouhaha, à l'issue duquel, au fond, rien ne se sera réellement dit. Ce qui me fait penser à ces parents qui font du dolto, croient-ils, en noyant l'enfant sous des flots d'explications qu'ils ne réclament pas et qui, au final, l'angoissent. Et je les plains, ces enfants, quand je les croise, pris dans l'étau d'un bavardage incessant. Et puis, dans ce tout dire qui ne dit plus rien, on ne retiendra que l'information qui alerte. Ah bon, tu t'es demandé si Jean-Jacques te plaisait. Cette pensée incongrue, est-ce que Jean-Jacques me plaît, ne porte généralement pas à conséquence puisqu'on n'en fera rien et qu'on l'oubliera vite. Sauf si on la rapporte. Ce qui est de l'ordre du non-sujet risque alors d'en devenir un de sujet, et un sujet sacrément embarrassant. N'est-ce pas la plus élémentaire élégance dans toute relation, a fortiori dans le couple, que d'épargner à l'autre ces élucubrations qui, si elles nous perturbent parfois, vont à coup sûr, lui, l'inquiéter. Et puis surtout, tout dire est impossible. C'est la règle en analyse que de dire tout ce qui passe par la tête, pour justement réaliser qu'on en dit plus, toujours, qu'on ne croyait en dire. Que dire ce à quoi on pense et dire aussi des choses qu'on ne savait pas penser, jusqu'à se libérer du sens unique de la souffrance. Pour finir, je repense à une discussion entre amis dans la douceur d'une soirée d'été un peu arrosée. Lyrique, nous parlions d'amour, chacun s'essayant à définir ce qu'il aimait chez son aimé. « Ce que j'aime avec lui, déclara l'un de nous, c'est que nous pouvons rouler des kilomètres sans avoir besoin de parler. » L'amour pourrait donc se signifier ainsi, aussi, en s'autorisant et en appréciant de ne rien dire ensemble.
Les choses vues de Sophie Cadalène, à voir en vidéo sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Doit-on tout se dire dans le couple? C'est notre menu du jour avec la psychologue Lisa Le Tessier et la psychanalyste Fabienne Kramer.
Merci. just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's not original. Send a call, alright, let's go now.
Jungle, interprété Casio.
Chérie,
grand bien vous fasse.
Je ne veux plus que tu m'appelles mon canari, mon cochon, ma grosse moule. Je ne suis pas ton animal de compagnie.
Sur France Inter.
Doit-on tout se dire dans le couple? C'est notre menu du jour avec la psychologue Lisa Le Tessier et la psychanalyste Fabienne Kramer.
Tiens, je vais te raconter un truc qui va te faire marrer.
Ouais.
Tu m'as kissé, Edith?
La petite grosse qui travaille aux ordinateurs, c'est ça?
Si. Petite grosse. Elle est grosse. Pas grosse, elle est un peu ronde. Je l'ai invitée deux, trois fois au resto.
Elle a pas été trop rasoir?
Non, finalement, j'ai décontracté, elle s'est détendue. C'est super, mais c'est... Et c'est là que ça devient drôle. Le deuxième soir où je l'invite à dîner, à la fin du repas, moi, j'étais claqué. Je lui dis, écoute, Edith, tu m'en veux pas, je vais me coucher. Et tu sais ce qu'elle me répond? Bernard, je déteste dormir seul. C'est fou, hein?
J'ai trouvé ça sympa. Elle est restée 8 jours à la maison, comme ça, décontracte.
Ah bon?
Mais maintenant, c'est fini, hein. Tu sais, c'est sans suite.
Tu viens de baigner?
Non, là, je suis pas en tenue.
C'est finalement, cette histoire, enfin, ce que j'ai vécu à Paris, ça m'a rapproché de toi, je crois.
Moi aussi, en un sens, ça m'a rapproché de toi.
Je suis content que tu le prennes comme ça.
Non, je crois qu'on s'est pas bien compris. Je voulais te dire, ça m'a rapproché de toi parce qu'il m'est arrivé la même chose ici.
Ah bon, parce que toi aussi, t'as eu une expérience ici?
Eh oui.
T'as un géo, un GM, je le connais?
Oh ben c'est un peu les deux, il y a eu Jean-Mi, Loulou et puis Miguel, le chef de l'artisanat.
On essaie des bronzés, doit-on tout se dire dans le couple? Question épineuse, hein. En cas d'infidélité, doit-on jouer la carte de la transparence ou mentir? C'est une réponse qui appartient peut-être à chacun des couples, hein, oui. Fabienne Kramer. Hein.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de règle.
La seule règle que moi je dis, je l'ai peut-être dit un peu tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on a trompé, ça change tout dans le couple, de toute façon, parce que nous, on sait. Enfin, celui qui est concerné sait. Donc, de toute façon, ça va changer des choses dans le couple, que ça soit dit ou que ça ne soit pas dit. Donc, il y a un avant et un après.
Lisa Le Tessier, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne.
Oui, bah, je suis complètement d'accord avec Fabienne. De toute façon, à partir du moment où il y a une infidélité, il y a quelque chose qui va se briser dans le couple, même si l'autre n'est pas au courant. Et quand l'autre l'apprend... Évidemment, un gros travail va devoir être fait.
Certains sont des farouches partisans de la chanson de Guy Mardel, N'avoue jamais. Vous êtes d'accord avec ça? Tiens, Sophie Cadalen.
Non. Oui. Alors, peut-être. Là, je bafouille. Oui, mais je pense que souvent, l'aveu n'est pas utile. Je suis toujours très méfiante sur ces histoires d'aveu, de pardon, de confession. Effectivement, l'infidélité, alors vous disiez tout à l'heure, ça brise toujours quelque chose dans le couple. Je suis pas non plus d'accord avec cette notion de brisure, de changement. Sauf, est-ce que c'est pas ça l'aventure d'un couple?
Oui.
Des virages à prendre, des étapes à dépasser, des obstacles à dépasser. Effectivement, des murs contre lesquels on bute, contre lesquels des fois on se fracasse aussi. Donc, plutôt que de dire une règle à chaque fois, non, une infidélité à chaque fois est à négocier de manière différente dans le couple. Ce ne sont pas les mêmes infidélités toujours non plus.
Lisa Le Tessier, une question très très importante. Pourquoi certains éprouvent-ils un tel besoin de vérité? Comment expliquer cette soif de vérité? C'est pourquoi? C'est pour contrôler l'autre? C'est par désir de fusionner? Question essentielle. Hein.
Alors, oui, c'est ce que j'appelle un peu les ayatollahs de la vérité, mais cette soif de vérité, effectivement, souvent, c'est un besoin de contrôle. C'est-à-dire, ce qu'on ne sait pas, on ne le contrôle pas. Et ça, ça peut faire très peur. Le problème, c'est que il faut juste accepter qu'on ne peut pas contrôler un être humain, on ne peut pas contrôler l'autre. Et ça, c'est très, 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 très compliqué pour certains. Après, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit. Pour le coup, moi, je pense vraiment qu'à partir du moment où il y a une infidélité, voilà, ça va casser quelque chose. Et surtout, est-ce qu'il faut le dire, si on veut repartir sur de bonnes bases, en tout cas, il y a quelque chose qui va être... à reconstruire. Est-ce qu'on va réussir à le reconstruire seul, sans le dire, ou avec l'autre? Mais en tout cas, il y a quelque chose à reconstruire de toute façon.
Fabienne Kramer, sur ce besoin peut-être de contrôle, j'aimerais qu'on s'y arrête un peu, c'est très important.
Oui,
Pourquoi est-ce qu'on exige la vérité?
On exige la vérité parce qu'on a envie de contrôler, bien entendu, sa vie, contrôler ses peurs, et on redoute quelque chose et on veut être dans un monde idéal. Justement, l'aventure du couple, c'est quand même, moi, ce qui m'intéresse dans l'aventure du couple, c'est ce rapport à l'altérité et justement cette surprise, ce mystère qui réside dans l'autre, qui sera toujours un autre, qui sera toujours un inconnu. On se réveille toujours un matin avec quelqu'un qui nous est foncièrement inconnu. Et c'est ça qui est magique. C'est là, justement, alors peut-être qu'il est temps aussi d'enseigner aux gens ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, quels sont nos petits arrangements propres avec nos habitudes. Et après tout, c'est pas si grave. Alors moi, je serais plutôt du côté de Sophie sur le thème de l'infidélité. Dans le temps, dans la durée, l'infidélité, on a tous des exemples qui a construit des couples, qui a aidé des couples à s'en sortir, qui a permis aussi de mettre sur la table des sujets qu'ils n'arrivaient pas à évoquer avant,
mais ça c'est évident.
Comment retrouver le chemin de la confiance après la découverte d'un mensonge? Quelles sont les grandes étapes de la reconstruction?
Alors justement, l'infidélité brise, mais peut être construite évidemment. Et donc les étapes, pour moi, c'est déjà d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ok, il y a eu une infidélité, mais finalement, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ce moment du couple? Il faut donner du sens à parfois quelque chose qui n'en a pas pour celui qui le subit. Donc déjà, c'est une première étape, la compréhension de ce qui s'est passé. L'acceptation de ce qui s'est passé, la compréhension. Et ensuite, justement, et ça c'est tout ce qu'on fait aussi en thérapie de couple, c'est ok, comment on peut maintenant construire un nouveau couple pour que ça fonctionne, pour qu'il n'y ait plus de non-dit, mais de non-dit qui brise. Voilà, il y a tout un énorme travail à faire. Et surtout, il faut que les deux soient participants.
Beaucoup de questions sur le pardon, notion délicate.
Oui, notion délicate. Notion délicate, qui, c'est la fin du travail, c'est la fin du livre d'ailleurs.
Difficile d'évaluer la sincérité d'un pardon, à moins d'être muni d'un détecteur de mensonges, comme dans le film « Mon beau-père et moi hein. ». C'est un peu compliqué d'évaluer la sincérité d'un pardon.
Oui, il peut être sincère aujourd'hui, beaucoup moins demain, et se compliquer. Moi, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure en disant que comment retrouver la confiance après un mensonge, mais on n'est pas obligé de la perdre, la confiance, sous prétexte qu'il y a un mensonge. Ce qui compte, je crois, c'est de ne pas prendre l'autre en otage, c'est-à-dire de ne pas disposer de la vie de l'autre. Et à partir du moment où on commence à mentir et qu'on est en train de disposer de sa vie, de l'utiliser, là, je crois qu'on commence à devenir vraiment déloyal.
Bonjour Valentin.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Marseille. Quel est votre regard sur notre thème du jour ? Doit-on tout se dire dans le couple ?
Alors moi, c'était par rapport à la problématique du timing, en fait, le mensonge par rapport au timing. C'est-à-dire que il y a des moments donnés, je vois le mensonge comme un artifice pour temporiser. C'est-à-dire que, pour parler concrètement, on sait qu'on doit avoir une discussion avec sa compagne ou son compagnon sur un sujet un peu profond, qui va nécessiter un certain temps pour se comprendre mutuellement. Et on sait qu'on est, je sais pas, ce jour-là, on est fatigué, on n'est pas bien, ou on voit que l'autre n'est pas bien. Et on sait, par rapport au rapport que l'on a avec la personne, que ça va pas glisser du bon côté, que ça va mal se passer ce soir-là, parce que, voilà. Et on sait qu'on peut pas demander à temporiser, non plus. Donc, c'est plus facile, à ce moment-là, de mentir. Pour éviter éventuellement quelque chose d'inéluctable, de trop grave en fait, qui pourrait abîmer, faire mal. Et à ce moment-là, on ment, on sait que c'est pas bien par rapport à une éthique, mais c'est quelque part la finalité, par conviction, qui nous guide.
Lisa Le Tessier.
Oui, je pense que c'est important ce témoignage. Effectivement, le timing, le contexte est très important pour pouvoir dire des choses difficiles. Il faut être dans les meilleures conditions, même si par contre, il faut jamais attendre le moment idéal qui n'arrive parfois jamais. Par contre, si on se dit simplement « je vais pas le dire ce soir parce que X ou Y raison, mais je prévois d'avoir cette discussion dans 2 jours ou dans 1 semaine », est-ce que c'est vraiment mentir ? Il s'agit simplement de mettre du temps dans la discussion.
Merci beaucoup Valentin de nous avoir appelé. Alors hors antenne, vous nous disiez, Lisa Le Tessier, que vous n'avez pas envie qu'on fasse l'éloge du mensonge.
Ah non, non, surtout pas. Voilà, j'aurais préféré qu'on fasse effectivement l'éloge de la sincérité, mais en fait, c'est là où tout est compliqué, parce que souvent, une fois de plus, on confond jardin secret et mentir. Mais du coup, on a beaucoup parlé en fait du jardin secret, de qu'est-ce qu'il ne faut pas dire dans le couple, les évolutions des sentiments, on ne va pas se dire ah tiens, aujourd'hui je t'aime un petit peu moins. Tout ça, effectivement, ça sert à rien. Ça peut être inclus dans le mensonge, mais moi, je l'inclus plutôt dans le jardin secret et dans son espace psychique. Par contre, la sincérité est une base du couple, une base très importante. Dès qu'on a l'impression que l'autre ment, c'est comme une impression d'irréalité. On construit son couple sur, on va dire, des règles implicites ou voilà, et dès que l'autre va mentir ou un gros mensonge ou un petit mensonge, on peut perdre complètement ses repères. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important, la sincérité.
Un mot de conclusion, Fabienne Kramer.
Mais juste pour ajouter aussi à ce que venait de dire Lisa, qu'il y a des menteurs pathologiques quand même. Hein. Ça peut être aussi, on peut être confronté à quelqu'un qui a une pathologie, qui est un menteur pathologique. Donc, ça existe aussi, hein, les gens qui mentent de cette façon-là. Il ne faut pas les oublier.
Merci à toutes. Merci Lisa Le Tessier. Le mensonge dans le couple vient de sortir chez Odile Jacob. Merci Fabienne Kramer. On trouve toujours en librairie 21 clés pour l'amour slow. Bien c'est sûr. Publié au PUF. Merci Sophie Cadalène d'être venue. Toutes les références sur franceinter.fr, la page Grand Main vous fasse. Belle journée à l'écoute de notre antenne.